une fois de plus, bienvenue donc à notre troisième soirée dans le cadre de notre séminaire consacré donc à l'esprit de Jézabel qui constitue depuis toujours un véritable danger, une grande menace pour l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Amen.
Vous êtes avec moi?
Amen.
J'aimerais voir vos mains agitées. Voilà. Comme ça, je sais que vous êtes avec moi. Merci. Que Dieu vous bénisse, nous vous saluons et que Dieu soit béni. Amen. Nous venons de le chanter, nous sommes si merveilleux, quelle que soit notre apparence extérieure, nous sommes merveilleux puisque nous avons été créés par un Dieu merveilleux. Nous sommes si sacrés puisque nous sommes faits à son image, puisque notre existence n'est pas le produit du hasard, voyez-vous, ni le résultat des mécanismes aléatoires. Nous sommes si riches puisque nous sommes en Christ et en lui nous sommes co-héritiers. Alléluia. Co-héritiers de Dieu. Même si aujourd'hui cette richesse est une richesse dont nous ne jouissons pas encore pleinement, mais une chose est sûre, c'est que lorsque son temps viendra, qu'il viendra nous chercher et qu'il nous introduira dans la gloire, alors là, nous vivrons pleinement notre vocation d'enfant de Dieu. Là, nous entrerons pleinement dans l'héritage que Dieu nous destine. Gloire à Dieu. Amen. Bien, nous voici à notre dernière soirée. Ça passe tellement vite, voyez-vous. C'est comme si c'était il y a seulement quelques heures que nous avions commencé notre séminaire et puis voilà. Nous sommes déjà presque à son terme. Mais bon, ce n'est qu'une première partie. Comme vous le savez, il y aura Jézabel 2. Alléluia. Donc, il y a certaines vérités en rapport avec cet esprit démoniaque, avec ce pouvoir maléfique qui exerce de plus en plus son emprise sur l'Église, des vérités sur lesquelles j'ai survolé, sur lesquelles je n'ai pas eu temps à m'attarder parce que je sais qu'il y aura une seconde session. Et au cours de cette session-là, nous essaierons de passer en revue et de manière presque systématique tout ce que nous devrions et nous aurons à dire par rapport à cet esprit. Gloire au Seigneur. En d'autres mots, ce premier séminaire consiste donc à planter le décor, voyez-vous, à permettre à chacun de nous d'avoir déjà une certaine idée, même si certains d'entre nous avaient déjà entendu d'une manière ou d'une autre, soit des sermons, soit des enseignements en rapport avec cet esprit diabolique qui s'est manifesté déjà dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons vu, et puis plus tard, hélas, dans une église qui était une église bénie, une église qui prospérait, et sur tous égards, comme la nôtre, mais qui, malheureusement, ses responsables, tous ceux que le Seigneur avait établis sur cette église-là, avaient manqué de sagesse, avaient manqué d'intelligence, ils n'avaient pas veillé sur eux-mêmes, et par conséquent, ils n'avaient pas veillé sur le troupeau du Seigneur, et résultat, c'est qu'une brèche s'est ouverte, et cette brèche a permis donc à la louve des ténèbres, la louve de l'enfer que Jézabel, de s'infiltrer à travers cette brèche et de faire de dégâts terribles parmi le peuple de Dieu, mais aussi, hélas, parmi ceux-là même qui étaient censés exercer une quelconque autorité dans la maison de Dieu. Amen. Eh bien, c'était l'église de Thyatire, très bénie, nous l'avons vu. Le Seigneur met en évidence les bonnes œuvres de cette église, des œuvres qui allaient crescendo, voyez, donc qui devenaient de plus en plus grandes. Le Seigneur loue cette Église pour sa foi, pour son endurance, sa persévérance, pour son attachement à lui, voyez-vous, jusqu'à ce que, après ses éloges, ils mettent le doigt là où ça faisait mal, qu'ils disent à cette Église qu'il avait quelque chose contre elle. Et il va passer en revue les différents griefs qu'il avait donc contre cette église, notamment la présence de cette prophétesse Jézabel, une femme manipulée par cet esprit impur, cet esprit au pouvoir maléfique, au pouvoir manipulateur, cet esprit qui cherche par tous les moyens, à séduire les serviteurs et à les conduire quelquefois dans des comportements et des conduites abominables, infâmes, turpides, voyez-vous, pour les éloigner davantage du maître dont nous devons veiller. Vous savez, c'est une chose d'avoir un véhicule, oui ou non? Mais ça n'est une autre chose de savoir quel type de carburant qu'il faut mettre dans son véhicule pour qu'il roule. Voyez-vous? Si par malheur, vous oubliez, vous confondez, alors que votre moteur est un moteur à essence, vous mettez le diesel, qu'est-ce qui arriverait? Voyez, mes amis, avoir un véhicule, c'est bien. Mais il faut encore savoir que nous avons sur le marché des véhicules qui roulent à la fois au mazout, au carburant et de plus en plus à l'électricité. Il en est de même pour nous, nous ne devons jamais oublier de l'Église. Dès lors que nous confondons l'Église avec notre propriété personnelle, dès lors que nous prenons l'Église comme étant une entreprise familiale, dès lors que les intérêts du royaume des cieux se mélangent aux nôtres, eh bien là nous courons, mes amis, le danger de nous retrouver en train d'être cajolés, en train d'être flattés, en train d'être embrassés par Jézabel. N'oublions jamais, c'est son Église, celui qui en est le chef. Voyez-vous, même les apôtres, qui étaient considérés comme des colonnes dans l'Église du Seigneur, ceux qui ont jeté les bases de notre foi, n'est-ce pas? Ceux qui nous ont transmis la révélation de Jésus-Christ, même eux, ils ont fini un jour par tout laisser, mourir et passer dans l'éternité. Mais lui a continué, il continue son existence éternellement, alléluia. Nous aussi, mes amis, ceux qui nous ont précédés, eh bien, sont passés. Nous devons savoir qu'à notre tour, nous passerons. Et lorsque le moment viendra, il faudra que nous soyons sûrs que cette Église de Jésus-Christ, nous l'aurons gérée comme étant son Église. C'est lorsqu'on confond, c'est lorsque la confusion s'installe, lorsque notre cupidité, notre convoitise prennent le pas, s'il vous plaît, sur les intérêts du royaume des cieux, qu'alors là commence le problème. L'Église de Jézabel. Nous avons vu hier comment l'ennemi avait préparé le terrain, comment il avait tout fait pour que cet esprit puisse se manifester, trouve dans une femme un outil, un objet qu'il allait utiliser, eh bien, pour jeter la malédiction, pour jeter l'opprobre, pour jeter l'anathème sur le peuple de Dieu, à savoir Israël. Cette louve syrienne, j'utilise un terme très dur, hein? Cette louve syrienne, plutôt phénicienne, sidonienne, eh bien, n'a pas atterri dans la bergerie du Seigneur, n'est pas entrée dans l'histoire du peuple de Dieu par hasard. Tout a commencé par une alliance conjugale. Akab, roi d'Israël, au mépris de la parole de Dieu, est allé chercher une femme en dehors du peuple de Dieu. Alors que la recommandation du Seigneur concernant le mariage était claire, était on ne peut plus claire. Le Seigneur avait mis son peuple en garde. Tu n'iras jamais chercher les femmes du monde, les femmes païennes, car elles risqueraient d'incliner votre cœur vers leurs idoles. Ainsi, vous tomberiez sous mon jugement. Au mépris de tout cela, eh bien, non seulement Akab, mais avant lui, leur ancêtre, Salomon, voyez, eh bien, il est allé contracter une alliance. Certes, il y avait des intérêts politiques derrière tout ça. Certes, il voulait être en paix, vivre en paix avec le voisin, c'est-à-dire les Phéniciens, les Sidoniens, les Tyriens. Et c'est ainsi qu'il est allé chercher une femme, eh bien, fille du roi de Tyr et de Sidon. Non seulement ça, mais quand on voit la manière dont l'ennemi avait préparé le terrain, eh bien, le papa, le père biologique, le géniteur de Jézabel, eh bien, était un homme du sacerdoce. C'était un prêtre au service d'Astarté, qui était donc une divinité féminine, si vous voulez, le penchant féminin de le pendant. Le pendant féminin de Baal. Vous voyez? Et le papa, le père de Jézabel, était très actif. Il était donc un membre du clergé. Vous voyez? Et son nom, eh bien, est très clair aussi, très explicite, par rapport à sa nature même spirituelle, Et Baal, c'est-à-dire Baal avec lui. Et quand sa fille naît, eh bien, il va lui donner un nom très significatif, qui quelque part montrait déjà ce qu'allait être la trajectoire de cette fille-là. Il lui donnera le nom de Jézabel, et comme nous l'avons vu, Jézabel voulant dire, premièrement, Baal exalte. Voyez-vous? Baal élève. Voyez? Et effectivement, Baal l'a élevé, car elle a quitté son pays pour le royaume d'Israël, et de par le mariage, son nom va se retrouver dans les annales de l'histoire du peuple de Dieu. La preuve, c'est que des siècles, beaucoup de siècles plus tard, nous parlons encore d'elle aujourd'hui, oui ou non? Alors que d'autres Sidoniens, d'autres Tyriens, d'autres membres de ce royaume de Phénicie, bien, qui en parle? Dites-moi. Dites-moi, qui en parle? Voyez-vous? Eh bien, Baal, élève. Effectivement, elle a été au bénéfice d'une élévation de la part d'une divinité païenne, et au-delà de ces divinités, de la part, eh bien, du diable lui-même. Non seulement Baal exalte, nous l'avons vu hier, Baal est le pou. Voyez? Ça montre la nature sensuelle de cette femme. C'est qu'elle allait advenir plus tard. Comment elle va rouler, elle va influencer son mari d'Akab, comment elle va se prostituer, c'est d'ailleurs le terme utilisé dans l'Ancien Testament, donc elle va aller avec plusieurs hommes, elle ne va pas se contenter simplement d'Akab. Jézabel. Voyez comment le diable préparait déjà le terrain. Non seulement ça, mais la Bible nous dit que là, en Israël, alors que Dieu avait défendu très clairement la reconstruction de la ville de Jéricho, après que le peuple l'ait conquise, vous connaissez tous l'histoire, Dieu était intervenu de manière extraordinaire, et c'était une victoire éclatante, Israël n'a pas eu à combattre, voyez-vous, il a fallu simplement sonner de la trompette, il a fallu simplement agir selon la parole de Dieu, pour que les murailles de Jéricho s'écroulent, pour que les portes tombent. Et c'est ainsi que cette ville a été conquise. Après sa chute, Dieu avait donné une parole. Une parole qui aurait dû être respectée, en disant que, étant donné que c'était un obstacle au peuple de Dieu, personne ne devait reconstruire, rebâtir cette ville, sinon au prix de ses propres enfants. Et à cette époque-là, mes amis, la déchéance morale, la décrépitude morale, la dégradation spirituelle, le délitement global, eh bien, a fait que finalement, les gens n'avaient plus une conscience affinée par la parole de Dieu, pas du tout. C'est ainsi qu'un homme va aller à l'encontre de la parole de Dieu, va agir au mépris de la recommandation du Seigneur, et elle, il va rebâtir cette ville, mais hélas, il va en payer le prix, car il va bâtir cette ville au prix de ces deux enfants. Voyez-vous le contexte, l'arrière-plan culturel, l'arrière-plan social, l'arrière-plan spirituel, eh bien, a fait que finalement, cet esprit puisse trouver un terrain favorable pour pouvoir agir. C'est ainsi que, derrière cette femme, eh bien, cet esprit va faire des dégâts terribles parmi le peuple de Dieu, car cette femme va exercer son pouvoir manipulateur sur son mari. Cette femme va tout faire pour entraîner le peuple de Dieu dans la duplicité, c'est-à-dire servir les Baals, Astarté, les divinités païennes, les idoles, et en même temps, eh bien, essayer de suivre aussi le Seigneur en essayant de respecter un tant soit peu sa parole. Elle va entraîner Israël dans l'apostasie, mes amis, dans la rébellion vis-à-vis du Seigneur. Elle va se lancer dans une lutte cruel contre tous ceux qui marchaient encore selon le Seigneur, de vrais prophètes. Voyez-vous? Elle va protéger les faux prophètes. Vous comprenez pourquoi, lorsque cet esprit se manifeste à l'époque de l'église de Thyatire, dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, un des problèmes que le Seigneur épingle, hein, une des grandes préoccupations du Seigneur vis-à-vis de cette église, était quoi? La fausse prophétie. Voyez? Une fausse prophétesse. Une dame qui se disait prophétesse. Le Seigneur ne l'avait jamais appelée à ce ministère. Mais par son caractère tout trempé, par une personnalité satanique, diabolique, cette femme est arrivée, mes amis, à exercer une influence sur le responsable de l'église. Elle est arrivée, mes amis, à traîner le gens dans sa farine. Cette femme va être comme du levain dans la pâte, n'est-ce pas? Qui finit par faire lever toute la pâte, hélas. Voyez-vous? C'est ce qui est arrivé. Mais le Seigneur, dans son amour, n'a pas voulu laisser cet esprit, eh bien, détruire son église de Thyatire. Comme à l'époque de l'Ancien Testament, il n'a pas laissé cet esprit poursuivre son travail funeste et macabre, son travail de destruction, laisser cette femme exercer sa séduction. Dieu va susciter un homme, et nous l'avons vu, dans la personne d'Élie. Alléluia. Élie le prophète, Dieu va lui donner l'onction. Élie va être, mes amis, eh bien, l'homme qui va aller à l'encontre de ce pouvoir mystique, de cette influence satanique, de cette séduction qui s'était abattue sur tout Israël. Voyez-vous? Par Élie, Dieu va permettre à son peuple de pouvoir réaliser, eh bien, où ils étaient tombés. Et nous connaissons tous ce qu'a été le combat d'Élie. Je reviendrai lors du deuxième séminaire consacré toujours à l'esprit de Jézabel. Comment Élie va marcher avec une onction spéciale, comment il va confondre les prophètes de Baal et d'Astarté, c'est-à-dire de faux prophètes, de gens qui prétendaient être au service du Seigneur, mais qui en même temps servaient les Baal et qui avaient entraîné le peuple dans cet égarement, voyez-vous, dans cette perdition. Il a donc fallu cet esprit-là pour qu'enfin Dieu puisse arrêter l'influence de cet esprit. Non seulement ça, deuxième onction, parce qu'aujourd'hui nous en parlerons un tout petit peu, deuxième onction, c'est l'onction que Dieu va donner à Jéhu. C'est Jéhu qui finalement aura raison de cette femme, puisque il va l'assassiner, cette femme séductrice, jusqu'au bout. Car lorsqu'elle apprend que Jéhu arrive, après avoir éliminé carrément presque toute sa famille, eh bien la Bible nous dit qu'elle se farde les yeux. Voyez-vous, elle sépare. Elle s'habille dans l'espoir de séduire l'homme qui venait et qui était donc sous l'onction de Dieu. Mais Jéhu, gloire au Seigneur, n'a pas succombé à ses charmes. Jéhu a résisté à cette séduction de cette femme. Il va finir donc par l'éliminer et par débarrasser ainsi Israël d'un très grand danger. Gloire à Dieu. Donc l'onction d'Élie, ce que nous pourrions appeler l'onction prophétique. Et croyez-moi, frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous avons besoin de cette véritable onction prophétique. Nous verrons en quoi elle consiste, car le problème se situe justement au niveau de la compréhension, au niveau de la manière même de percevoir, d'expérimenter cette onction prophétique. Voyez-vous? Car le problème, ce n'est pas tant de savoir que nous avons besoin de cette onction. La quasi-totalité d'entre nous, nous le savons. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce que nous entendons par onction d'Élie. Qu'entendons-nous par l'onction prophétique? Voyez-vous? Par cette onction, le Seigneur voudrait, mes amis, nous aider à faire face à cette influence que cet esprit exerce de plus en plus dans nos églises. Influence qui se manifeste par la fausse prophétie. Voyez-vous? Influence qui se manifeste par des caractères et des personnalités toutes trempées. C'est ainsi que vous verrez ces gens-là avoir un certain pouvoir presque envoûtant. Comme je vous l'avais dit, vous allez voir toute une autorité. Un homme d'une certaine respectabilité. Cet homme, quand vous le voyez, quand il passe, vous sentez l'autorité, n'est-ce pas? Mais face à ces prophétesses-là, eh bien, toute leur autorité disparaît. S'évapore comme de la vapeur. Voyez? Oui, maman, la tête baissée. On n'ose pas regarder la prophétesse en face. Voyez? Un caractère tout trempé. Une personnalité qui fait peur. Voyez? Quand elle parle au GSM, eh bien, la personne, où qu'elle soit, elle peut être à Goma, en mission de service. La prophétesse ici appelle, eh bien, les collaborateurs qui sont au courant que le chef fréquente la prophétesse, le sauront tout de suite. Car même dans une réunion, tout change. Oui, 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 maman, pardon. On n'a pas le courage de lui dire, écoutez, je suis en réunion. Je vous rappellerai. Une personnalité forte. Nous trouvons cela parmi les caractéristiques de Jézabel. Voyez-vous? Un pouvoir envoûtant. Ensorcelant. Vous voyez? Et par rapport à ça, il n'y a pas d'autre solution. Voyez-vous? On peut enseigner, c'est bien, les gens doivent être enseignés. Mais au-delà de l'enseignement, il faut une onction prophétique. Gloire au Seigneur. Il a fallu que Dieu suscite un homme, et nous allons en parler un tout petit peu de cet homme-là. Il a fallu que Dieu l'appelle. Et Dieu est allé le chercher, non pas à Jérusalem, là où il y avait le clergé, là où il y avait les autorités religieuses, là où il y avait le temple, là où il y avait des gens connus, parce qu'ils étaient souverains sacrificateurs, parce qu'ils étaient anciens, parce qu'ils étaient scribes. Non, mes amis, Dieu a cherché un homme. Gloire à Dieu. Et il va le trouver au-delà du Jourdain, en Galade, dans un petit village de Tishbé. Et quand Élie monte sur la scène biblique, on ne nous dit pas, on nous donne à peine quelques informations. Nous ne connaissons pas sa généalogie, oui ou non? Avec Dieu, on n'a pas besoin d'une grande généalogie. Gloire au Seigneur. On peut avoir été le fruit d'un viol. On ne connaît même pas son papa. Mais lorsque le Seigneur passe par là, tout change. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut naître, comme je l'ai souligné hier, ce n'est pas le fait de naître dans une grande maternité qui apporte une plus-value à notre existence. Il y en a qui sont nés à Mama Yemo, ou à l'hôpital général. Il y en a qui sont nés dans des cliniques. Il y en a qui sont nés dans des huttes. Dans des hôpitaux de campagne. Il y en a qui sont nés, eh bien, dans leur maison. Peu importe. Lorsque Dieu veut appeler, lorsque Dieu veut se servir, eh bien, il va utiliser qui il veut. Gloire au Seigneur. Élie, le Tishbite de Tishbé en Galate. Ça veut tout dire. Nous reviendrons là-dessus. Le Seigneur est allé le chercher, voyez-vous, pour en faire, eh bien, l'homme sur qui il va répandre son onction prophétique, onction qui va lui permettre de lutter contre les faux prophètes qui sévissaient à l'époque, voyez-vous, contre l'influence néfaste sur le plan moral, influence, eh bien, que répandait Jézabel tout autour d'elle, parmi les responsables du royaume. Mais il n'y a pas eu qu'Élie, nous l'avons vu. Il y a eu aussi Jéhu, alléluia. Jéhu qui deviendra roi. Donc il y a l'onction prophétique, il y a l'onction royale, dans le sens de guerrier, alléluia. Car le roi n'avait pas simplement vocation à diriger, à conduire le peuple de Dieu. Mais le roi conduisait également le peuple à la victoire. Alléluia. Lorsque l'ennemi venait, c'était au roi d'être à la tête, avec le Seigneur, en comptant sur le Seigneur, souvent, comme accompagné des sacrificateurs, avec l'arche du Seigneur représentant la personne, ainsi le roi conduisait son peuple à la victoire. Alléluia. Donc l'onction royale, l'onction prophétique, la conjugaison de cette onction-là ouvre la porte, mes amis, au triomphe sur Jézabel, au triomphe sur tout esprit, et en particulier sur ce trio démoniaque, satanique, que représentent Bélial, Gabata et Jézabel. Une constellation qui exerce de plus en plus son emprise sur l'Église de Jésus-Christ, de manière sournoise, de manière subtile. Voyez-vous? Eh bien, ils se présentent à l'Église comme étant des étoiles qui brillent. Mais en réalité, ce sont de lunes sans lumière. Voyez-vous? Qui simplement essayent d'égarer les gens. Jéhu, onction royale. Élie, onction prophétique. Et la conjugaison, la conjonction, mes amis, de ces deux onctions crée des synergies qui finissent par avoir raison sur tout type d'esprit. Car la parole de Dieu déclare, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par le titre, par la position religieuse ou par quoi que ce soit, lorsque nous faisons face à toutes ces montagnes que représentent ces différents esprits séducteurs, mais c'est plutôt par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons nous attarder un tout petit peu sur cette onction prophétique et sur cette onction royale dans son aspect guerrier. Et pour cela, je vais prendre une manifestation de l'esprit de Jézabel, on l'a vu dans l'église de Thyatire, non? Mais avant Thyatire, eh bien nous allons retrouver, une fois de plus, l'onction d'Élie et de l'autre côté, l'esprit de Jézabel. Cette confrontation, déjà au jour du Seigneur, avant même que l'église commence et qu'elle arrive à s'implanter à Thyatire, nous allons prendre un récit qui nous montre une fois de plus comment cet esprit, déjà à l'époque du Nouveau Testament, eh bien, a exercé son influence destructrice. Nous sommes dans Marc, chapitre 6. Marc, chapitre 6, 14 à 29. C'est l'histoire de Jean-Baptiste, vous l'avez deviné. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous lisons, le roi Hérode, donc Hérode Antipas, vous savez, juste pour vous permettre de mieux comprendre, dans l'histoire, il y a eu Hérode le Grand, le père, voyez-vous, c'est d'ailleurs lui qui avait fait construire le temple de Jérusalem, temple dans lequel le Seigneur est entré, il a eu des fils, et parmi ses enfants, il y a donc cet Hérode Antipas, dont il est question ici. Ça va? Le roi Hérode l'a pris. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre et l'on disait, Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, celui qui est ressuscité. Car, l'histoire commence là. Car, Hérode lui-même avait fait saisir Jean-Baptiste, et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère qu'il avait épousé. Ça sent déjà le jézabélisme. Oui ou non? Oui, oui. Le frère est passé par là, et puis après, un autre frère passe. Séduction. Voyez? Donc, verset 18. En effet, Jean lui disait, il s'adressait à Hérode Antipas, Il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodiade avait du ressentiment contre lui, c'est-à-dire contre Jean-Baptiste, et voulait le faire mourir, comme Jézabel à l'époque d'Élie. N'est-ce pas? Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode, son mari, craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Il le protégeait, et quand il avait entendu, eh bien, il était très perplexe, pourtant, il écoutait avec plaisir. Cependant, un jour opportun arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il lui fit dire ce serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai quand ça serait la moitié de mon royaume. » La séduction. Certains peuvent se retrouver là-dedans. Ah oui. Jézabel est partout. Combien de gens ont perdu leur royaume à cause d'une femme, hein? Voyez? Elle sortit, la fille, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Terrible. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et de lui demander, « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Il envoya aussitôt un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans sa prison, apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. À cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Histoire terrible. Et comme je vous dis, dans cette intrigue, tout sent le jézabélisme. Nous retrouvons les caractéristiques de Jézabel, oui ou non? La trahison, la cruauté. Voyez-vous, une femme décidée, au caractère tout trempé, à la personnalité très très dure, très ferme, qui lorsqu'elle veut quelque chose, elle va utiliser tous les moyens pour l'avoir. Comme elle avait déjà agi, Jézabel, à l'époque d'Akab, son mari, et de Naboth. Quand son mari a voulu avoir la vigne de Naboth, et que ce dernier n'a pas voulu la lui céder, car la parole de Dieu interdisait cette pratique de brader, de brocanter l'héritage reçu de ce père, le roi est rentré chez lui, triste, et sa femme l'a tout de suite remarqué. Et quand elle lui dira, oui, mais c'est à cause de Naboth et tout ça, elle dit, quoi? Et tu es triste à cause de cet homme-là? Dis-moi, est-ce toi qui règne ou c'est Naboth qui règne? Écoute, laisse-moi faire. Je veux m'en occuper. Elle va utiliser tous les moyens. Elle va trahir. Elle va envoyer les fils de Bélial, vous rappelez de cette histoire, hein? Voilà pourquoi je vous ai dit, les trois esprits constituent un duo de l'enfer. Un trio plutôt. Terrible. Et c'est comme ça qu'on va accuser faussement Naboth. Et c'est comme ça que Naboth va être exécuté. Eh bien, le même esprit, nous le retrouvons ici, dans ces œuvres de destruction. Voyez-vous? C'est un anniversaire. Le roi Hérode invite tous ses collaborateurs, ses chefs militaires, ses administrateurs, bref, tous ceux qui avaient une certaine responsabilité. Il organise un grand festin à l'occasion de son anniversaire. Et forcément, sa femme est là. Mais comme il convoitait la fille de son épouse, ça sent le jézabélisme. voyez, comme elle, il convoitait la fille de son épouse. Eh bien, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à tout faire pour satisfaire cette jeune fille. Hérode est assis, entouré de ses collaborateurs. C'est la fête. L'alcool coule à flot. N'est-ce pas? À un certain moment, cet alcool, évidemment, eh bien, échauffe ses sens, sa sensualité. Vous voyez? Vous savez, quand on boit, à un moment, on ne se contrôle plus. Hein? C'est comme ça que certains, quand ils ont bu, ben, ils deviennent des prophètes de leur famille. Ou alors ils se mettent à faire des promesses. Toi, je vais t'envoyer en Europe. L'effet de l'alcool. L'alcool attise sa convoitise, n'est-ce pas? L'alcool, mes amis, eh bien, suscite en lui ou embrase tout son être. Évidemment. Et à ce moment-là, eh bien, la maman, Hérodiade, qui avait déjà eu un enfant avec le frère d'Hérode, Philippe, et ce Philippe-là était son oncle. Ah oui, c'était l'oncle à Hérodiade. Hein? Donc, elle avait eu un enfant avec son oncle, et cette fille, qui s'appelait Salomé, c'est ça son prénom, Salomé, eh bien, Hérodiade va sauter sur l'occasion. Elle connaissait très bien son mari. Elle savait que lui, dès qu'il a pris un verre de trop, c'était fini. Il ne se contrôlait plus, etc. Elle dit, écoute, va danser. Va danser. Elle connaissait le charme de sa fille, non? Mais en même temps, elle connaissait les faiblesses de son mari. Va danser. C'était un fin stratège, cette femme. Cette femme qui était prête à tout pour atteindre ses objectifs. Là, nous voyons que l'ombre de l'esprit de Jézabel plane, parce que nous retrouvons les mêmes caractéristiques. Alors la jeune fille, le corps drapé dans une tunique extraordinaire, eh bien se mit à danser, se trémoussant, voyez-vous, devant Hérode, évidemment, avec le sourire jusque-là. Voyez, cette jeune fille dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa jeunesse, bien habillée, bien drapée, et tout ça se met à exécuter une danse qui, de plus en plus, va envoûter Hérode. À un moment, il n'y a plus de salivée. Ne pouvant plus se contrôler, la fille, envoûtée par les mouvements gracieux, le trémoussement de la fille, eh bien, l'homme est séduit. L'homme n'en peut plus, il bave. Presque. Voyez? Il ne peut plus se contrôler. Il n'a Dieu que pour la jeune fille. Il oublie même que ses collaborateurs sont là. Ça, c'est Jézabel. Hein? Lorsqu'il veut te ridiculiser, lorsqu'il veut nous ridiculiser, bien, il va toujours au-delà. Voyez? Il est comme envoûté. Il est grisé par l'ambiance qui règne. Il est stimulé par la passion. Son cœur commence à battre la chamade. Oh, fille, voilà. À un moment, je ne sais pas comment il appelle, la fille vient et dit, Moana, continue comme ça. Je suis prêt à te donner tout ce que tu voudras, même la moitié de mon royaume. Il est prêt à céder son pouvoir. Oh là là, vous savez, le pouvoir pour un despote, c'est terrible. Hein? Il y a un homme, c'est un Africain. Ça, c'est entre nous. Un homme d'État africain qui a dit ceci. On l'interpellait à propos du fait que, bon, les Africains ne cèdent pas facilement, ne partagent pas le pouvoir. Alors, avec un calme olympien, voyez, avec une patience plus qu'africaine, et sûr de lui, il dit à ce genre-là, il dit, vous savez, le pouvoir chez nous en Afrique, c'est comme une femme, on ne se la partage jamais. commence à promettre, à faire des promesses, promettre monts et merveilles. Hein. Je veux tout te donner, même la moitié de mon royaume. Alors la fille très intelligente, comme c'est la maman qui lui avait demandé, elle va vers sa maman. Maman, écoute, il est prêt à me donner tout ce que je lui demande, hein, ma fille. Très bien. Eh bien, va demander la tête de... Pourquoi Jean-Baptiste? Pourquoi Jean-Baptiste, mes amis? Parce que c'était un homme qui a eu à interpeller son mari, qui prêchait la vérité, alléluia, sans compromission, alléluia, qui disait à cet homme, Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Et trois femmes, tu ne dois pas te comporter en prostituée. Tout cela dérangeait. Et Hérode, évidemment, qui, bon, en même temps, avait de l'admiration pour l'homme, mais en même temps, ça dérangeait Hérodiade. Elle ne savait pas comment se débarrasser de cet homme-là, jusqu'au jour où l'ennemi lui donne l'occasion. Apporte-moi la tête, même pas la main. Et dit la tête là où il y a la bouche. Qui nous interpellait, cette bouche qui parlait, je veux que cette bouche se taise. Car même en prison, on entend qu'il continue à parler. Il faut mettre fin à ça. Mes amis, c'est exactement ce que Jézabel a cherché à faire par rapport à Élie, oui ou non? Nous retrouvons une fois de plus la confrontation entre d'un côté l'onction qui reposait sur Élie, et la même onction qui est venue reposer sur Jean-Baptiste. Car à propos de Jean-Baptiste, le Seigneur a dit ceci, que Jean-Baptiste est venu préparer son chemin, qu'il est venu proclamer sa parole afin de préparer l'avenue du Messie. En même temps, je vais vous lire ça, c'est formidable. Voilà. Depuis le jour de Jean-Baptiste, et Matthieu 11, vous pouvez retrouver ça également dans Luc. Hein. Depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'admettre, si vous voulez le croire, celui qui est l'Élie qui devait venir. Et le Seigneur termine en disant que celui qui a des oreilles entend. Le prophète Malachie l'avait déjà dit, voyez-vous, que Élie allait venir avant le jour du Seigneur, avant que le Messie vienne. Mais en disant cela, Élie ne voulait pas dire ou amener les gens à croire dans la réincarnation. En disant, Jean-Baptiste lui-même reviendra, vous le verrez tel qu'il est, voyez-vous. Et lorsque le Seigneur dit que Jean-Baptiste est l'Élie, il ne veut pas dire que c'est Élie réincarné. Non, pas du tout. Il veut simplement dire que l'onction qui était sur Élie est venue se poser sur... Parce que c'était la même onction, eh bien, l'esprit de Jézabel s'est levé. Alléluia. A voulu mettre fin au ministère prophétique de Jean-Baptiste, un prophète. Voyez, vous comprenez pourquoi cet acharnement, cette confrontation... Voyez, là, le Hérode ensorcelé par la jeune fille, eh bien, va donner des instructions pour qu'on aille chercher Jean-Baptiste, qu'on le décapite et qu'on amène sa tête sur un plateau. Ça a été fait. On va apporter la tête sur le plateau à la jeune fille qui va la présenter à sa mère. Quel spectacle macabre. Voyez? Et pourtant, c'est la vérité, mes amis. L'esprit de Jézabel a toujours été menacé par l'onction d'Élie. Il n'y a pas d'autre moyen, mes amis, de résister à cet esprit que de vouloir absolument et par tous les moyens, eh bien, entrer dans une relation d'intimité, de profonde relation avec le Seigneur, pour que lui, qui baptise de feu et d'esprit, puisse répandre sur nous l'onction qu'il avait répandue sur Élie. Alléluia. Il n'y a pas d'autre solution. Élie. Élie seul Pourquoi? Voyez-vous, pourquoi? Eh bien, nous allons voir un tout petit peu l'étymologie même de ces deux noms, Élie et Jéhu. Leurs noms, mes amis, sont déjà un message. Leurs noms, eh bien, nous montrent déjà, mes amis, ce que nous devions faire si nous voulons profiter de la même onction que le Seigneur avait répandue sur leur vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est la même onction qui avait reposé sur Élie, que Dieu a fait reposer sur Jean-Baptiste plus tard. C'est la même onction qu'il aimerait répandre sur chacun de nous dans ces temps où l'esprit de Jézabel, eh bien, fait de plus en plus des ravages parmi le peuple de Dieu. C'est la même onction qu'il avait fait reposer sur Jéhu, qui a amené Jéhu à mettre fin au règne de cette reine diabolique. Eh bien, cette même onction, le Seigneur aimerait la répandre sur chacun de nous. Car c'est la seule manière de résister face donc à cet esprit. Commençons par Élie. Élie. De l'hébreu Eliaou. Ou en abrégé Elia. Et Eliaou, en hébreu, veut dire le Seigneur est mon Dieu. Alléluia. Le Seigneur est mon Dieu. On voit que cet homme n'était pas simplement un prophète, mais son nom en lui-même est déjà un message. Le Seigneur est... Gloire au Seigneur. Ça montre, mes amis, la proximité, la relation toute particulière qu'il y avait entre le Tishbite de Galaad et le Seigneur d'Israël, le Dieu d'Israël, qu'il pouvait appeler le Seigneur est mon Dieu. Mes amis, le Dieu qui est doit finir par devenir notre Dieu. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas d'autre solution. Nous devons entrer dans une grande relation. Une relation, eh bien, qui va se refléter, ou qui va refléter, si vous voulez, Dieu lui-même dans nos vies. Nous n'allons pas chercher à nous appuyer sur les hommes. C'est Dieu et Dieu seul. Nous ne pouvons pas avoir l'onction d'Élie si chacun de nous ne prend pas la résolution d'entrer dans une intimité plus grande afin que ce Dieu qui est Tout-Puissant, ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui est miséricorde, ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, finisse par devenir notre... Qu'il y ait une relation, mes amis, une relation dans les deux sens. Nous avons une relation avec lui, et lui a avec nous. Le Seigneur est mon Dieu. Alors que Jézabel pouvait dire Baal est... Alors que les faux prophètes, soit qu'ils servaient Astarté, pouvaient dire Astarté est notre Dieu. Effectivement, ils étaient au service de ces divinités-là. De même, Élie pouvait dire Yahvé, Adonai est mon Dieu. Parce qu'il est mon Dieu, vous pouvez être nombreux sur le mont Carmel. Parce qu'il est mon Dieu, eh bien, je peux l'invoquer et il peut agir. Gloire au Seigneur. C'est là que nous devons, mes amis, apprendre. À tout faire pour ne pas mener une vie sur procuration des autres. Vous ne pouvez pas vous reposer sur les témoignages des autres. Il faut que vous-même, vous viviez l'expérience. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu a fait pour lui ceci. Oh, vous savez, nous avons à l'église une sœur que Dieu a visité. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis elle en a eu. Gloire au Seigneur. Vous savez, nous avons dans notre église un frère qui était démonisé jusqu'aux dents. Nous avions prié. Il a été délivré. C'est bien. Nous avons ceci. Nous avons cela. Dieu te regarde du haut de son ciel. Et il dit, ma fille, fais tout pour que je devienne ton Dieu. Il faut que tu vives. Car comme nous l'avons vu au jour de la Pentecôte, il a prévu des choses pour toi, non pas pour ton grand frère ni ta grande sœur, non pas pour ton père ni ta mère, car les choses qu'il a prévues pour toi, ce sont des choses qu'aucune oreille n'a entendues, qu'aucun œil n'a vues, des choses qui ne sont montées au cœur de personnes, même pas de ton géniteur. Quand ils te voyaient et t'appelaient fiston, ils ne pouvaient pas s'imaginer que ce fiston-là, quand ils te voyaient et t'appelaient ma gamine, babi, mamie, ils ne pouvaient pas s'imaginer que la mamie-là deviendrait une femme qui l'utiliserait pour contrer l'esprit de Jézabel, de choses que l'œil n'a pas vues. Nous devons tout faire, arriver à la même confession qu'Élie, Yahvé est mon Dieu. Vous voyez, pas seulement le Dieu de Kossi, ni de Dido, mais Yahvé mon gloire au Seigneur. C'est ça le secret, nous le verrons un peu plus en profondeur. Ce n'est pas simplement un nom qu'il portait, Eliyahu, voyez-vous. Voilà comment nous pouvons avoir cette onction. Il faut que Dieu devienne notre gloire au Seigneur. Il n'y a pas d'autre solution. Eliyahu. Il était originaire de Tishbé. J'aime beaucoup la version grecque qui répète, qui dit Élie, le Tishbite de Tishbé en Galate. Il précise. Hein. Vous savez, vous pouvez être à Kinshasa sans être originaire de Kinshasa, non? Vous êtes quinois, mais vous n'êtes pas quinois de Kinshasa. Vous êtes quinois parce que vous êtes venu. Il y a des quinois quinois. Nous, là, les Baouta. Vous voyez? Mais nous sommes tous des quinois. Gloire au Seigneur. Mais tout ça pour dire, la version grecque souligne l'origine. L'origine modeste. L'origine d'un petit village. Aucun prophète n'en a parlé, mes amis. On a parlé de Jéricho, on a parlé d'Hébron, de Jérusalem, de tant de grands sites, mes amis, sur la terre, de la terre promise. Mais qui a parlé de Tishbé? Alors que pour Dieu, mes amis, il s'était réservé un homme. Je cherche un homme qui se tienne devant moi. Et quand le moment est arrivé, Dieu l'a trouvé à Tishbé. Où que tu sois, mon frère, ma sœur, reste sage et fidèle. Où que tu sois, Dieu peut te trouver. Alléluia. Où que tu sois, ce qu'il attend de toi, ce qui va te donner la transparence, la visibilité, au point d'attirer Dieu, c'est ta vie de sainteté. Lorsque tu rayonnes de sa lumière, eh bien, tu peux être dans le fin fond de Bandundu. Tu peux être dans le fin fond de Manono. Dieu va te voir. Il va aller te chercher. Alléluia. Gloire au Seigneur. Élie, le Tishbite, des Tishbé en... Il y avait quelque chose dans cette contrée-là, Galade. Car j'ai eu aussi été originaire de Galade, figurez-vous. Formidable, hein? Voyez? L'un habitait Tishbé, l'autre va habiter Ramoth. Voyez? Donc, ce qui nous amène à la deuxième onction. L'onction qui a reposé sur Jéhu. Si Eliyahu, de par son étymologie, est déjà un message, et en même temps le secret de l'onction prophétique d'Élie, eh bien Jéhu aussi, ce nom-là, est tout un message. Élie le Tishbite de Tishbé en Galate. Et lorsqu'il est question de Jéhu dans 2 Rois 9, hein, vous lirez ça, tout le chapitre, eh bien Jéhu de Ramoth en Galade. Galade. Rien du tout. Voyez? Et quelquefois, les gens pensent que lorsqu'on est dans une grande ville comme Paris, voyez-vous, la ville de lumière, non? On demeurera dans la lumière. Faux. Il y en a qui pensent que quand on est né à Rome, la ville éternelle, on est appelé à vivre éternellement. Faux, n'est-ce pas? Galade, c'est en Transjordanie. C'est-à-dire, si vous prenez la terre promise, Israël, vous avez le Jourdain, et entre le Jourdain, vous avez la mer de Galilée, et au sud, la mer morte. Eh bien, la Galade, c'est en Transjordanie, c'est-à-dire au-delà du Jourdain. De l'autre côté, hein? Et pourtant, Dieu va appeler de cette région-là des guerriers redoutables. Jéhu. Alors, Jéhu, de l'hébreu, Yéhu. Alléluia. Et Yéhu veut dire quoi? Yéhu veut dire lui, le Seigneur. Alléluia. En d'autres mots, celui, le, ce n'est pas celui que Jézabel a servi. Ce n'est ni Baal, ni Astarté. Ce n'est ni tel ou tel autre prophète. Mais celui, le, Yéhu. Alléluia. Donc nous voyons que rien que dans le nom, eh bien c'est tout un message. Celui, le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Quand on se tourne vers Jéhu, eh bien, il tourne nos regards vers qui? Car celui le Seigneur. Alléluia. Eh bien, il va se battre pour ce Seigneur-là. Sa présence est déjà en soi un message. Il n'y a pas d'autre Dieu, celui le Seigneur. Alléluia. L'onction de Jéhu va transformer cet homme en un guerrier redoutable. Mes amis, un vaillant guerrier. Il va utiliser sa lance qui va devenir une lance de délivrance pour Israël. Car cette lance va exécuter le jugement de Dieu. Jéhu. Voyez? Et Dieu va utiliser ces deux types d'onction pour briser l'influence de l'esprit de Jézabel parmi son peuple. Dieu va utiliser, mes amis, ces onctions, cette onction sous ces deux aspects, pour réveiller son peuple, pour permettre à son peuple de prendre conscience du temps dans lequel il se trouve. Ce sont des temps difficiles, mes frères et sœurs. Regardons tout autour de nous. Eh bien, tout sent la séduction. Combien de mariages brisés à cause de l'esprit de Jézabel? Combien de ministères brisés à cause de l'esprit de Jézabel, oui ou non? Combien de foyers brisés à cause de l'esprit de Jézabel par un inceste? Et la famille a été par la débauche. Et aujourd'hui, beaucoup nagent dans ces choses terribles. Parce qu'à un moment, ils n'ont pas veillé. Au lieu de rester ferme, voyez-vous, eh bien, l'ennemi est arrivé à les aveugler, à mettre sur leur intelligence une sorte de voile qui les empêche de pouvoir discerner, de pouvoir voir comme le Seigneur aimerait qu'il voit, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui encore, l'Église là-bas a besoin de l'onction prophétique et de l'onction royale. Aujourd'hui encore, toutes les églises qui sont à Kinshasa et qui se réclament de Jésus-Christ ont tout intérêt à rechercher cette onction prophétique et cette onction royale. Il n'y a pas d'autre moyen de mettre, mes amis, de briser l'influence, que ce soit de Bélial, de l'esprit de Bélial, de l'esprit de Gabata et de l'esprit de Jézabel sur l'Église. Il n'y a pas d'autre moyen que de rechercher à faire du Seigneur notre Dieu, car tout nous viendra de lui. Alléluia. Et à tout faire pour que par notre vie, les gens, eh bien, se tournent non pas vers nous, mais vers... Car Jéhu parlait, et l'onction de Jéhu parle encore aujourd'hui, en disant, celui, le Seigneur. Alors tout ministère qui cherche à tourner le regard de gens vers l'homme derrière le ministère, eh bien, c'est un ministère sous l'influence et sous le contrôle de Jézabel. Car avec l'onction de Jéhu, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de se tourner vers lui qui est le Seigneur. Gloire au Seigneur. Mes amis, les temps sont mauvais et nous devons veiller. Nous devons tout faire pour rester attachés au Seigneur, quelle que soit notre responsabilité dans l'Église. Quelle que soit notre position dans l'Église, nous devrions toujours tout faire pour que l'onction royale repose sur nous, car c'est la seule qui va détourner le regard de gens de nous pour les tourner vers le Seigneur. Alléluia. Nous devons rechercher l'onction, l'onction d'Élie. Voyez-vous? Et cette onction-là ne nous tombe pas du ciel comme ça par hasard. Non, il y a toute une préparation. Voyez-vous, mes amis? C'est cette onction-là, eh bien, qui va nous amener dans une relation beaucoup plus intime, plus filiale avec le Seigneur et qui nous amènera à proclamer par notre vie, par notre bouche, que le Seigneur est notre Dieu. Et quand on vit, mes amis, sous cette onction, on n'a plus rien à craindre, car on sait que le Dieu d'Élie est le Tout-Puissant. Et lorsqu'il est notre Dieu, nous n'avons rien à craindre. Alléluia. Quand on vit sous l'onction de Jéhu, la même chose, on n'a rien à craindre. On sait que quand bien même on aurait devant soi toute une armée et qu'on serait seul face à cette armée, le Dieu de Jéhu, avec son onction guerrière, eh bien nous donnera la victoire. Alléluia. Puisqu'il en est ainsi, je voudrais, à l'occasion de cette dernière soirée, demander chacun de nous à incliner sa tête dans la prière. Je veux faire un premier appel. Vous avez vu que vous ne pouvez pas entrer dans une relation qui vous conduise à l'onction d'Élie si ce Dieu-là n'est pas ton Dieu. Ça veut dire que la première expérience, c'est celle de recevoir le Seigneur. Tu as peut-être une religion. Tu pries quelque part, tu fais partie d'un groupe charismatique, tu fréquentes une église de Pentecôte, c'est bien tout ça, mais ce n'est pas l'église qui sauve. Fréquenter une église, eh bien, ne provoquera pas de manière automatique une relation entre toi et le Seigneur. C'est une décision que tu dois prendre toi-même. Alors je voudrais demander à tous ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur dans leur vie, que ce soit vous qui êtes sous les chapiteaux, autour, dans le jardin, dans la cour de l'école maternelle, ici, sur le parking, si vous n'avez jamais reçu Jésus comme Seigneur dans votre vie, comme Sauveur, car c'est là que tout commence, alors je vous demande de vous lever et nous allons vous conduire dans ce moment. Alléluia. Tout commence par là. Tu ne peux pas lutter contre l'esprit de Jézabel tant que tu n'es pas né de nouveau et tu ne peux pas naître de nouveau tant que le Seigneur ne sera pas venu dans ta vie. Alors lève-toi, merci. Y a-t-il des personnes qui se lèvent? Merci. Merci pour ceux qui se lèvent. Nous sommes là, frères et sœurs, pour conduire ces bien-aimés au pied de la croix afin qu'ils puissent recevoir Jésus, expérimenter la vie éternelle, expérimenter le pardon de leurs péchés. N'hésitez pas à vous lever, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Tout commence par là. Merci pour ceux qui se lèvent. Jésus est là devant vous. C'est le seul qui peut vous mettre à l'abri de l'esprit de Jézabel. Jésus est là, celui qui peut vous libérer des conséquences de toutes ces fausses prophéties qui ont été déversées sur vous et qui aujourd'hui constituent une véritable malédiction pour votre vie. Pouvez-vous lever et nous allons vous conduire dans la prière d'acceptation. Merci pour ceux qui se sont levés. Inclinez vos têtes et vous allez prier après moi. Répétez cette prière après moi et faites de cette prière votre prière. Jésus a dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Et ce soir il frappe à la porte de votre cœur. Veuillez lui ouvrir votre cœur, il va entrer en vous. Priez après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ce soir tu m'as parlé. Ce soir je réalise, Seigneur, combien avec toi je peux expérimenter la victoire. Mais cependant, Seigneur, je réalise que tu n'es jamais venu dans ma vie. Alors je te demande de venir ce soir dans ma vie. Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Et je t'invite à venir personnellement en moi pour pardonner ma vie de péché. Car tu vois combien j'ai vécu loin de toi. Tu connais tous les péchés que j'ai commis, Seigneur. S'il te plaît, pardonne-moi. Car à la croix, tu es mort pour moi. À la croix, tu as souffert pour moi. Seigneur, pardonne-moi. Efface tous mes péchés par le sang que tu as versé à la croix pour moi. Merci Jésus pour le pardon de mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur. Je ne suis plus seul. Désormais, tu es avec moi. Désormais, tu vas marcher avec moi. Merci, Jésus, de m'accepter dans ton royaume. Merci, Jésus, de m'accueillir dans ta maison. Merci, Jésus, de ce que désormais, je suis ton enfant. Tu es mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Vous restez debout, je vais prier pour vous. Et entre-temps, je demanderai au service d'accueil de donner le petit bulletin que nos amis vont remplir. Mais avant de remplir ce petit bulletin, je voudrais prier pour vous qui vous êtes levés, vous recommander à la grâce et vous dire combien le ciel est dans la joie ce soir parce que vous avez ouvert votre cœur au Seigneur de gloire. Alléluia. Seigneur, je voudrais te remercier pour ces bien-aimés qui aujourd'hui ont entendu ton appel, se sont levés pour répondre favorablement à ton appel. Tu vois combien ils ont vécu loin de toi. Ils avaient une religion, ils fréquentaient une église, mais ils n'avaient jamais de relation vivante avec toi, une relation permanente avec toi. Seigneur, tout en fréquentant un groupe religieux, ils vivaient, oh Dieu, sous ta condamnation. Mais aujourd'hui, dans ton amour pour eux, tu les as attirés à toi. Aujourd'hui, tu leur pardonnes tous leurs péchés. Aujourd'hui, tu les accueilles dans ta maison. Aujourd'hui, tu les accueilles dans ton royaume. Merci, Jésus. Ces âmes sont tes âmes à toi. Seigneur, elles t'appartiennent. Elles n'appartiennent pas à une religion. Elles n'appartiennent pas à un prophète. Elles n'appartiennent pas au Dieu, à un pasteur, quel qu'il soit. Ce sont des âmes pour lesquelles tu es mort à la croix. Et nous voulons les réclamer pour toi et pour toi seul. Que tu les gardes, que tu les bénisses, que tu les aides désormais à grandir avec toi et à marcher sous ta grâce en comptant sur toi. Merci Jésus. Amen. Dieu, les gens qui ont réalisé, qui réalisent qu'ils ont été victimes de fausses prophéties, qu'ils ont été victimes, eh bien, de l'emprise d'un gourou. Oui, ce sont de véritables gourous. La manipulation ne peut pas venir de Dieu. Quand un pasteur exerce une domination, amène les gens à dépendre constamment de lui, eh bien, ce pasteur-là court le danger de se retrouver sous l'influence de Jézabel. Dieu voudrait que nous grandissions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ceux qui infantilisent les gens n'agissent pas pour le bonheur des gens. N'est-ce pas? Donc nous devons combattre cela. Dieu voudrait voir chacun de nous grandir. C'est comme un enfant, hein? Quand il naît, il a besoin du sein de sa mère. Hein? Les trois premiers mois, il boit au sein de sa mère. Une année, il est encore là. Deux ans, ça commence à... Hein? La maman commence à tout faire. Hein? Trois ans, l'enfant est toujours... Quatre ans, cinq ans. Ah, il y a un problème. Il faut qu'il apprenne à manger le foufou. Donc, voyez, et c'est la même chose. Nous devons grandir. Alors, si tel est votre cas, je voudrais demander, pendant que nous avons nos têtes baissées, demander à ceux-là de se lever et nous allons prier pour eux. Nous allons casser l'influence. Cette influence a eu un effet terrible sur ta vie. Ceux qui passent par des moments difficiles au niveau de leur couple, à cause de soi-disant prophètes qui leur ont donné des conseils qui aujourd'hui, eh bien, les dressent l'un contre l'autre. Tu peux te lever également. Nous allons prier pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui s'élèvent. Merci pour ceux qui s'élèvent. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons prier. Merci. Merci pour ceux qui s'élèvent. Dieu est bon. Alléluia. Le Seigneur est là. Il veut vous débarrasser de cette influence néfaste, de ce pouvoir séducteur, de ce pouvoir de tromperie et de mensonge. Nous allons prier. Nous allons lever nos mains vers le Seigneur. Et je vais demander à tous ceux qui sont restés assis de regarder autour d'eux et de voir tous ces bien-aimés qui se sont levés pour prier pour eux, pour les recommander au Seigneur, pour implorer la grâce de Dieu sur eux. Alléluia! Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Seigneur, nous voulons te recommander ces personnes qui se sont levées parce que, oh Dieu, elles réalisent qu'elles ont ouvert la porte à l'influence de Jézabel. Et cet esprit a jeté le trouble dans leur cœur, la confusion dans leur foyer. Seigneur, cet esprit les a détournés de toi. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils sont sur une route qui les mène tout droit vers la catastrophe. Et ils s'arrêtent et ils se tournent vers toi. Seigneur, accueille-le et que l'influence de Jézabel soit brisée au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Nous brisons cette influence. Nous brisons l'impact de toutes ces fausses prophéties, l'impact de ces fausses visions dans la vie de ces personnes, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Que ton sang le lave, que ton sang le purifie, que ton sang, oh Dieu, leur débarrasse de toutes ces choses abominables que l'esprit de Jézabel a laissées dans leur vie. Seigneur, Jézabel a semé l'ivraie dans leur cœur. Détruis cette ivraie. Et que désormais tu sèmes ta présence. Et que cette présence le conduise à toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous sommes une église. Autour de nous, il y a d'autres églises qui appartiennent au Seigneur, qui peut-être connaissent des moments difficiles, qui passe par des temps de division, parce qu'il y a eu une fausse prophétie. Il y a peut-être des églises sœurs qui sont dans l'œil du cyclone, qui sont dans la ligne de mire de l'esprit de Jézabel. C'est la confusion entre les différents responsables, c'est la guerre. Ils se battent, voyez-vous, et il y a des camps qui se forment. Ça ne peut pas venir de Dieu. Il devrait y avoir un seul camp, celui du Seigneur. Alors je vais demander à chacun de nous de se mettre debout. Et chacun va prier pour une église particulière. Une église que tu connais. Peut-être c'est ton église, car il y a des gens qui sont là, qui viennent d'autres assemblées, et nous rendons grâce pour leur présence parmi nous. Alors nous allons prier pour ces églises. Nous allons prier pour la borne, car la borne a besoin que le Seigneur soit et demeure sa lumière. La borne a besoin que l'onction prophétique d'Élie repose sur elle, comme les autres églises de la ville, comme les autres églises à travers tout le territoire de la RDC, comme les autres églises au-delà de nos frontières, ont besoin que le Seigneur leur ouvre les yeux, que le Seigneur répande son onction, l'onction royale, l'onction prophétique. Alors tous ensemble, prions, prenons autorité sur l'esprit de Jézabel, au nom de Jésus. Obaba yarababa. Jésus, nous te recommandons notre église. Seigneur, nous te recommandons la borne. Nous te recommandons nos extensions. Nous te recommandons toutes les églises évangéliques qui sont dans Kinshasa, qui se réclament de toi, qui sont tes églises, mais qui passent par des moments difficiles. Bénis ces églises en brisant l'influence de Jézabel. Alléluia. Au nom de Jésus, nous brisons l'esprit de Jézabel. Dans toute la ville de Kinshasa, que les églises soient libérées par le sang de Jésus. Gababa yukonko shikaba yakenga. Loto toto shikayabara. Rembaba koto toto kochinga yarabatandara. Rondo toto shikayakenda. Ô Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, agis dans ton église. Agis dans nos différentes assemblées. Que l'esprit de Jézabel soit lié, chassé des assemblées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh gloire. Oh gloire à toi. Oh gloire à toi. Oh merci. Couvre-nous de ton sang. Couvre-nous de ton sang. Couvre-nous de ton sang. Aya baba ukoko. Bemba bangoto soko chikavayaratenga. Gloria baba koko chikavayatenga. Reka koko chikavayarabatanga. Dambeko koko chika. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, merci. Oh. Nous allons remercier le Seigneur de ce qu'il est déjà à l'œuvre dans toutes nos assemblées, dans toutes les églises qui lui appartiennent, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit dans les provinces, au-delà du Congo. Nous allons remercier le Seigneur.
Un jour je sais.